êtes bien sur Radio Saint-Afrique et dans la Cour des comptes à régler. Nous allons continuer à philosopher sur les femmes, leur place dans les sociétés, aussi bien actuelles que traditionnelles. Grâce aux analyses anthropologiques et neurophysiologiques, dont je vous ai indiqué les conclusions dans les émissions précédentes, il s'avère que rien ne distingue l'homme et la femme en matière de capacité, contrairement aux dictats culturels qui voudraient que certains domaines relèvent de la femme et d'autres de l'homme, à part bien sûr l'enfantement. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorcières. Et vous allez voir, ce sujet nous amène à l'un des domaines où la femme se retrouve particulièrement sous la coupe des hommes, je veux parler de la médecine. Car si on creuse un peu au-delà de la sorcière des contes, c'est de guérisseuse et de l'aube de la médecine moderne dont il va être surtout question. Tout d'abord, quand on parle de sorcière, surtout dans une émission vouée aux contes, eh bien on a l'image d'une vieille femme, laide, avec une verrue sur son gros nez crochu, volant sur son balai dont elle ne se sépare jamais, se livrant à des sabbats du diable à la pleine lune, avec ses consœurs sorcières, et qui jette de mauvais sorts, empoisonne, dispense des filtres pour envoûter. Cette sorcière est l'héritage de la chasse aux sorcières qui s'est déroulée entre le XIVe et le XVIIe siècle, et notamment pendant l'Inquisition. Au XIXe siècle, le portrait de la sorcière a été adouci. C'est ainsi qu'on trouve chez les frères Grimm ou chez Andersen des sorcières qui sont de bonnes sorcières, qui soumettent certes les héroïnes à des épreuves terribles, mais pour leur bien. Alors, quelle est l'origine des chasses aux sorcières? En recherchant des données sur les sorcières, que trouve-t-on? Des croyances dans le pouvoir des femmes, reflétées par les mythologies comme la mythologie grecque, qui a beaucoup inspiré notre monde occidental, et si on peut dire, inspiré aussi la réponse des religions révélées à ce pouvoir qui perturbait sérieusement les dogmes, et qui se traduira par la chasse aux sorcières, qui est un fait, semble-t-il, uniquement occidental. Et c'est quoi ce pouvoir ? Je cite, « Depuis l'aube de l'histoire, une sorcière est une femme chamane. Les sagas scandinaves les appelaient Volva. Les sorcières seraient les héritières d'un culte et de pouvoirs spécifiques féminins dont l'origine remonte à la préhistoire. Si le dieu cornu fut la divinité des chasseurs, la grande déesse mère fut la divinité des cueilleuses, dont le culte, à partir du néolithique, deviendra prépondérant durant des millénaires et dans les premières grandes civilisations antiques, sous la forme de cultes agraires rendus à des déesses telles que Déméter. Parenthèse. L'existence de la déesse mère est attestée dans toutes les cultures primitives, sans pour autant avoir été suivie de chasse aux sorcières. Ce pouvoir des femmes déifiées. Françoise Héritier nous avait caché ça, qui insistait sur la reproduction considérée comme le seul pouvoir insupportable aux hommes et qui a entraîné la répression des femmes. Ou alors, c'est que j'ai mal lu. J'ai aussi un problème avec ce que je rapportais des convictions de Catherine Vidal, soit que l'inné n'existe que dans la recherche de la satisfaction des besoins élémentaires, la faim, la soif, la reproduction. Tout le reste étant une construction culturelle, puisqu'il a été prouvé que le cerveau n'a pas de sexe. Alors, les liens de la femme à la nature mère reconnue par les multiples cultures, quels faits relèvent-ils? Construction culturelle? Lien inné? Un peu de musique pour nous aider à réfléchir.
Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol.
Espíritu del sol, de la luna y las estrellas,
mares y montañas, espíritu de la tierra, del aire y el trueno, del agua y el fuego, y de nuestros ancestros. Gracias a la vida por mostrarnos cada día que nuestra mente y sentimientos son poderosos, son como el viento, tan poderosos que no lo creemos. Energía que lo crea todo, abre la puerta de mi corazón. Enséñame a amarme, a perdonarme, llévame a la luz, a la luz, a la luz espiritual, a la luz, a la luz, a la luz espiritual.
Y hacia ella.
Enseñanzas, siete direcciones, danza a la luna, plegaria, canciones del norte al este, del sur al oeste, corazón, universo, dentro de la tierra, presente. La puerta de mi corazón.
De quelle nature est donc ce lien, cette compréhension, cette connaissance que les femmes et elle seule aurait de la nature. Oh là là, je vois poindre des considérations qui vont faire grincer quelques dents. Est-ce l'entrée fracassante du spirituel, du cosmique, de l'énergie universelle? Au choix, toute chose qu'on n'a pas encore piégée par IRM. Même si des scientifiques ont fait, par exemple, l'expérience de communication entre particules élémentaires. Et pire, entre eux et ces particules élémentaires. De quoi perdre son latin. À moins que une force inconnue. Oh, le vertige. Mais pas si vite. Tout compte fait. Ce n'est peut-être que suite à la répartition des tâches entre hommes et femmes, fait culturel donc. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes ont été dévolues à la cueillette, donc parcourant inlassablement forêts et prairies. Depuis des millénaires, elles ont pu accumuler des expériences avec les plantes et transmettre de mère en fille, de guérisseuse en guérisseuse, leurs connaissances. Je laisse la question ouverte. Il vous propose un premier conte qui se passe du côté de la taïga. Le conte parle de Gold et de Tunguz. Il s'agit, comme vous l'aurez compris, d'ethnie sibérienne, et d'ailleurs le conte est d'origine Gold. La femme esprit, conte de Sibérie. L'homme était souffrant depuis 9 mois. Son corps lui faisait mal. Sa tête semblait dans un étau. Dans le clan, le vieux chaman s'était éteint depuis quelques hivers. Plus personne ne pouvait le guérir, ni même le soulager. Une nuit, sur son lit de douleur, une femme au visage de mandorle s'approche de lui. Elle arbore les parures des femmes tungouses. Ses cheveux tombent sur ses épaules en petites tresses noires. Elle était plus belle que toutes les filles gold dont il avait croisé le chemin. Chaque nuit, elle venait hanter ses rêves. Son regard magnétique le fascinait dans un mélange d'attirance et de crainte sacrée. Une nuit, elle s'adresse à lui. « Je suis une Ayami, une femme esprit de la taïga. J'ai enseigné et assisté la lignée des plus grands chamans du fleuve Amour. Je leur ai donné des esprits auxiliaires. Je leur ai appris à devenir chamane. Maintenant, c'est à ton tour. » Ayant peur d'être leurré par un démon, il se redresse sur sa couche et hurle pour la chasser. Nuit après nuit, l'Ayami revient le harceler. Elle insiste, lui répétant qu'il fallait un chaman pour la survie de son clan. Lui se souvenait du poids qui pesait sur les épaules du vieux guérisseur. Combien les transes l'épuisaient, quel jeu dangereux il jouait avec les esprits, frôlant parfois la folie et la mort. Tu guériras de tes blessures en devenant chamane. Si tu refuses, tu mourras. Donne-toi à moi et tu recevras au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je t'aime et je t'ai choisi. Si tu l'acceptes, je serai ton épouse en esprit et nous nous unirons comme homme et femme dans l'extase, embrasée par la lumière. L'homme sort en titubant de sa tente et s'enfonce dans la taïga pour échapper à l'Ayami. Il erre, hirsute et fiévreux, en proie à la confusion mentale. Il croit l'apercevoir sous les traits d'une vieille femme, l'entendre dans le hurlement d'un loup, la voir chevaucher en bas le tigre de Sibérie. Où qu'il aille, elle était là. En rentrant dans sa tente, il s'assoit sur sa paillasse, le front humide, et, finalement, appelle lui-même la femme esprit. « Fais de moi ce que tu veux !» Elle l'étreint et l'emporte dans un voyage initiatique, escorté par les Siwen. Il traverse la haute région de Kamur, le maître de l'univers à robe d'élan, et celle de Lomboa, l'arbre de vie. Un jour, il rend visite à Sanjiamafa, le maître de la taïga. Une autre fois, à Sanjiamama, la déesse de la terre. Plus loin, il voit l'arbre aux esprits couvert d'oiseaux. L'Ayami lui dit que c'était des âmes qui attendaient près du lac du retour pour y être réincarnées. Une autre fois encore, elle plonge avec lui dans les abysses, là où Sahari d'Abdian règne sur son arbre aux racines inversées. Elle lui enseigne comment manœuvrer son tambour, telle une barque dans les deux courants de la rivière Monde, comment choisir les incantations, les chants, les modulations. Elle lui attribue trois animaux guides pour l'assister. Il apprend alors à coudre sur sa robe de chamane les signes de protection, s'exerce à ruser avec le monde souterrain, à charmer les esprits, à mettre lui-même en scène les vols de son âme. Ses maux de tête s'espacent, sa fièvre cesse, il retrouve sa vigueur. À partir de ce jour, il endosse le manteau du chaman. Peu à peu, sa réputation de guérisseur, l'appeleur d'âme, dépasse le cercle de son clan. Un jour, un messager entre sous sa tente. Il était envoyé par un grand chef tungouze, l'ennemi héréditaire. Il lui offrait trois rennes blancs et le priait de venir au chevet de sa fille, qu'aucun de ses chamans ne pouvait guérir. L'Ayami lui fait alors ravaler ses rancœurs et ses préjugés claniques, suggérant qu'il avait été choisi pour ouvrir la piste de la réconciliation. Au cœur du pays tungouze, quand il se penche sur la malade frissonnante, il est saisi par la ressemblance avec sa femme esprit. Le visage en mandorle, les tresses noires tombant sur ses épaules, elle ouvre les yeux, esquisse un sourire et murmure. Je t'attendais. J'ai besoin de toi. Un esprit puissant se venge et me dévore. Une chamane ne peut se soigner elle-même. Prends mon vieux tambour. Il a toujours ramené ma grand-mère victorieuse du monde souterrain. Viens chercher mon âme, même si tu dois fouiller sous les racines de l'arbre de Sahari Diabdian. La femme eut un dernier regard intense et perdit connaissance. Trois nuits durant, le chaman chevauche le tambour. Par trois fois, il plonge et bataille dans l'autre monde, forçant les portes, frôlant les abîmes. Par les flèches des démons avec son tambour, il se retrouve enfin dans une caverne sous la neuvième racine de l'arbre infernal, devant celui qui maintenait l'âme captive. Il s'approche et lance toutes les attaques, use de toutes les ruses, sans succès. La voix rauque du démon ricane. « Tu n'as aucune chance de me reprendre cette âme par la force. As-tu une autre vie à m'offrir en échange ?» Le chaman est tenté un instant de troquer l'âme du chef Tunguz contre celle de sa fille. Puis il se ravise. Il se souvient du serment prêté à sa femme esprit de ne jamais céder à la force obscure du pouvoir. « Prends mon âme, démon, et laisse-la partir. » Dans l'attente, la jeune Tunguz ouvre les yeux. Elle tient en main le tambour de son aïeul. Le chef donna sa fille au chaman. La paix s'installa durablement entre les peuples. La femme esprit ne se manifesta plus. Le rescapé de l'autre monde vécut avec la troublante impression qu'elle s'était fondue dans son épouse terrestre, ou que l'âme de sa bien-aimée avait toujours été la Yami.
Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît,
soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Bon, les sorcières. Ces sorcières victimes de l'Inquisition et pourchassées par les autorités, clergé et État, pour faits de sorcellerie, et qui sont les héritières d'un culte à la nature qui daterait de la Préhistoire. Nous allons parler de ces sorcières grâce à un livre de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, intitulé « Sorcières, sages-femmes et infirmières ». Une histoire des femmes soignantes, qui reprend l'histoire des sorcières depuis le Moyen-Âge. Jusque-là, font remarquer les auteurs, l'histoire des sorcières a été écrite par leurs persécuteurs, l'élite instruite. Il était temps que ça change. Le livre est paru en 1973 et il a ouvert un chantier de recherche historique sur les sorcières, jusque-là ignorées. J'ai aussi utilisé un article de Véronika Zarachowicz qui date de 2015 et l'incontournable Wikipédia. On a des informations sur l'identité des sorcières grâce, si j'ose dire, aux nombreux procès intentés aux femmes considérées comme sorcières entre le XIVe et le XVIIe siècle. Selon les auteurs du livre cité, les chasses aux sorcières les plus virulentes coïncideraient avec des périodes de grande agitation sociale, de soulèvements paysans faisant trembler le féodalisme sur ses bases. La sorcellerie passait pour être un moyen de lutte du côté féminin, bien que les femmes aient par ailleurs pris part activement au soulèvement. Cette campagne de terreur a été menée par les classes dirigeantes contre la population féminine paysanne. Que leur reprochait-on ? Tout simplement et d'abord d'être des femmes. Sûrement celles qui n'étaient pas assez soumises aux divers asservissements dont elles faisaient l'objet, et d'exister par un don, un savoir particulier, d'être des guérisseuses, des sages-femmes. Les chasses aux sorcières étaient des campagnes bien organisées, financées et mises en œuvre par l'Église et l'État. Un texte, Le marteau des sorcières, écrit par deux inquisiteurs dominicains, définit non seulement ce que sont les sorcières, Mais les moyens de les débusquer, notamment par la délation, les tortures et les châtiments à leur infliger. C'est ainsi qu'il est dit, dans ce manuel, une femme qui pense seule, pense à mal. Ou, toute la sorcellerie provient de la passion charnelle qui en ces femmes est insatiable. D'où, pour satisfaire leur passion, elles folâtrent avec les démons. Et plus loin on peut lire, « Oh, béni soit le Très-Haut qui jusqu'à présent a préservé le sexe masculin d'un si grand crime !» Certes, mais on ne peut s'empêcher de penser à tous les viols qui se produisaient et qui ne donnaient lieu à aucune répression. Ce qui, effectivement, rend la fréquentation du diable sans nécessité. Un exemple de justice qui témoigne de l'obscurantisme et de la haine dont pouvaient faire preuve les juges et les autorités qui les soutenaient. Le moyen de savoir si une femme était une sorcière consistait à la jeter nue dans l'eau, les mains et les pieds attachés ensemble pour l'empêcher de surnager. Une sorcière étant réputée plus légère que l'eau, si elle flottait, elle était aussitôt repêchée et brûlée vive. Si elle se noyait, c'était une morte innocente. Notons que ces persécutions se sont intensifiées avec ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Pas mal, non? Ces lumières qui avaient tendance à n'éclairer que les hommes.
Mon corps me tient tête, me fait souvent l'affront de tourner les talons, de partir à l'aveuglette. Ce soir, il se prête au rythme cadencé des villes en fête sous les néons bleutés, aux nuées veloutées dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune, sous le regard des chiens qui dorment à moitié. Les femmes se font vampes, les hommes se font loups. Chacun sa chacune, chacun son rendez-vous. À l'heure où l'on ose révéler sa face cachée, aux beautés indomptées, dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante, dans la chaleur des nuits de pleine lune. Dans le dédale, dans la danse tribale, s'abandonner, se dévoile. Tant que durent les étoiles, dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante, dans la chaleur des nuits de pleine lune.
Deuxième conte, celui-ci tiré de la mythologie grecque. L'épouse de Pluton. Dans les profondeurs de l'Étna, les dieux avaient enseveli vivant un certain nombre de géants terribles qui crachaient du feu. Les monstres faisaient tous leurs efforts pour se libérer. Ils ébranlaient si violemment la terre que Pluton, le roi des enfers, en fut alarmé. Il pourrait bien séparer les rocs et ouvrir un passage du royaume des morts jusqu'au jour, pensait-il. Et, montant sur son char d'or, il s'en fut voir les dégâts. Or, Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, était assise sur le flanc d'une montagne jouant avec son fils Eros. Elle vit Pluton passer sur son char tiré par des chevaux d'un noir de jais. « Mon fils, Voici quelqu'un qui défie ma puissance et la tienne. Vite, prends tes flèches et envoie-en une dans la poitrine de ce sombre monarque. Qu'il ressente aussi la souffrance et l'amour. Pourquoi serait-il le seul à y échapper ? Eros se met debout d'un bond en entendant les paroles de sa mère. Dans son carquois, il saisit une flèche bien acérée, la met sur son arc, tend la corde et frappe Pluton en plein cœur. Le sinistre roi avait vu beaucoup de belles filles dans le royaume des morts où il régnait, mais jamais son cœur n'avait été touché. Et tout d'un coup, voici qu'une chaleur inaccoutumée circule dans ses veines. Ses yeux sévères s'adoucissent. Devant lui s'étendait une belle vallée où une charmante jeune fille cueillait des fleurs. C'était Perséphone, la fille de Déméter, déesse des moissons. Elle s'était éloignée de ses compagnes et comme son panier débordait déjà de fleurs, elle remplissait son tablier de violettes et de lys. Le dieu vit Perséphone et en tomba sur le champ amoureux. D'un geste de son bras, il la saisit et l'emporte sur son char. « Mère !» s'écrie-t-elle, et les fleurs de son tablier se répandent sur le sol. « Mère !» Elle crie aussi le nom de ses compagnes, mais elles étaient déjà hors de vue, tellement les chevaux de Pluton étaient rapides. En quelques instants, ils atteignent le fleuve Cyané. Perséphone se débat, sa ceinture dénouée tombe sur le sol, mais le dieu la tenait toujours bien ferme. Il frappe la rive du fleuve de son trident, la terre s'ouvre et les ténèbres engloutissent chevaux, chars, Pluton et Perséphone en larmes. D'une extrémité à l'autre de la terre, Déméter cherche sa fille, mais personne ne peut lui dire où est Perséphone. À la fin, épuisée et en proie au désespoir, la déesse retourne en Sicile. Elle s'arrête près du fleuve Cyané, là où Pluton avait fendu la terre et était descendu dans son royaume. Une naïade avait vu Pluton emporter sa proie. Elle aurait bien voulu dire à Déméter où était sa fille, mais la crainte de Pluton l'en empêche. Elle avait cependant ramassé la ceinture que Perséphone avait laissée tomber. Et par-dessus les flots, elle la lance au pied de Déméter. La déesse comprend alors que sa fille avait disparu pour de bon. Mais elle ne soupçonne pas Pluton de l'avoir enlevée. Elle en blâma la terre innocente. « Sol ingrat, dit-elle, je t'avais rendu fertile, je t'ai revêtu d'herbes et de grains nourrissants, et c'est ainsi que tu me récompenses. Tu n'auras plus mes faveurs. » Cette année-là fut la plus cruelle que l'humanité ait jamais connue. Rien ne poussait, rien ne prospérait. Le bétail mourait, les semences ne voulaient pas croître, les hommes et les bœufs travaillaient en vain. Il y avait trop de soleil, il y avait trop de pluie. Seuls poussaient les chardons et les mauvaises herbes. Il semblait que tous les hommes allaient mourir de faim. « Cela ne peut durer ainsi, dit Zeus. Il faut que j'intervienne. » Et il envoie tous les dieux et toutes les déesses, l'un après l'autre, supplier Déméter. Mais elle leur fait toujours la même réponse. « La terre ne portera pas de fruits tant que je n'aurai pas revu ma fille. » Zeus, naturellement, savait bien où était Perséphone, mais cela ne lui souriait pas d'enlever à son frère la seule joie de sa vie. Cependant, il sentait qu'il devait le faire, s'il voulait sauver la race humaine. Il appela donc Hermès et lui dit « Descends aux enfers, mon fils. Demande à Pluton de rendre son épouse. » Si elle n'a pas goûté de nourriture au royaume des morts, elle peut retourner chez sa mère et y rester toujours. Hermès, aux pieds ailés, descend, et dans le sombre palais du roi, il trouve Perséphone aux côtés de Pluton. Elle était pâle et triste. Aucun des trésors du royaume souterrain ne pouvait amener un sourire sur ses lèvres. « Il n'y a pas de fleurs ici, » disait-elle à son mari, quand il la couvrait de bijoux. « Les bijoux n'ont pas de parfum. « Je n'en veux pas. » Quand elle voit Hermès et entend son message, son cœur bondit de joie, ses joues rosissent et ses yeux brillent, car elle savait que Pluton n'oserait pas désobéir à l'ordre de son frère. Elle se lève d'un bond, prête à partir. une seule chose l'ennuyait. Elle ne pourrait quitter pour toujours le royaume des morts, car elle avait accepté de la main de Pluton une grenade, et elle en avait sucé 4 graines. Le cœur lourd, Pluton prépare son char d'or. Il fait monter Perséphone, tandis qu'Hermès prenait les rênes. « Chère épouse, dit le roi d'une voix tremblante, ne m'oublie pas, je t'en prie, car je t'aime et je vais être solitaire pendant les 8 mois où tu seras partie. Et si tu penses que mon palais est triste, rappelle-toi au moins que ton mari est grand parmi les immortels. Va et profite bien des fleurs. » Hermès guide les chevaux noirs tout droit vers le temple de Déméter à Éleusis. La déesse entend le bruit des roues et, aussi rapide que la biche bondissant sur les collines, elle court à la rencontre de sa fille. Perséphone se jette dans les bras de sa mère et la tristesse du récit qu'elles avaient à se faire se transforma en joie. Et c'est encore pareil de nos jours. Pendant 1/3 de l'année, Perséphone retourne dans la triste demeure de Pluton, 1 mois par graine qu'elle a mangée. Pendant ce temps-là, la nature est morte, les feuilles tombent, la terre s'arrête de produire. Perséphone revient au printemps et avec elle viennent les fleurs, suivies de la fécondité de l'été et des riches récoltes de l'automne. Pour Barbara Ehrenreich et Deirdre English, la chasse aux sorcières au siècle des Lumières était surtout dirigée vers les femmes soignantes. La grande majorité des femmes poursuivies pour sorcellerie étaient sages-femmes ou guérisseuses. Leurs remèdes se basaient sur une pharmacopée traditionnelle, breuvage, infusion, décoction de racines et d'herbes, les simples. La population, essentiellement rurale, n'avait guère d'autre recours pour se soigner. Il n'y avait ni docteur, ni hôpitaux. Mais, comme le disent Barbara et Deirdre, une médecine masculine pour la classe dominante sous les auspices de l'Église de l'État était acceptable. Une médecine féminine intégrée à une culture paysanne ne l'était pas. Durant les persécutions, c'est souvent le terme d'herboriste qui est utilisé dans les procès-verbaux de l'Inquisition pour désigner les sorcières. Pendant cette période, il y eut des exécutions par milliers. On cite le cas de Toulouse, où 400 femmes furent mises à mort en une journée. Dans certaines villes allemandes, c'était 600 femmes par an. La fureur était telle qu'on cite un village de l'évêché de Trèves où il ne restait plus qu'une seule femme. On estime de 50 000 à 100 000 les victimes conduites au bûcher par l'Inquisition et la Réforme. Comme par hasard, cette période noire pour les guérisseuses, c'était le début de la formation de médecins et la médecine devenant une profession. Mais une profession sous l'étroit contrôle de l'Église. La formation ne devait pas entrer en conflit avec sa doctrine, si bien que la connaissance médicale des médecins se limitait aux œuvres de Galien, médecin de la Rome antique. Les médecins ne pouvaient intervenir sans l'assistance d'un prêtre pour les conseiller. Face à eux, les guérisseuses étaient détentrices d'une connaissance approfondie des plantes, des médicaments et une compréhension des corps, due à une expérience transmise et enrichie depuis des millénaires. Et en fait, les guérisseuses s'avéraient plus efficaces que les médecins, et peu à peu, même les malades des classes supérieures désiraient bénéficier des soins des guérisseuses. Et parmi celles-ci, on commençait à trouver des femmes instruites. Et ça, bien sûr, ne pouvait être acceptable. La profession médicale n'hésita pas à s'engager dans l'élimination des femmes soignantes. Alors que la chasse aux sorcières s'intensifiait, dans le même temps, on interdisait l'accès des femmes aux universités. Il s'agissait bien de n'accepter comme soignants que les hommes. Par exemple, des médecins anglais envoyèrent au Parlement une pétition qui dénonçait les femmes présomptueuses et sans valeur usurpaient la profession. Il réclamait que toute femme qui tenterait de pratiquer la médecine se voit imposer des contraventions et de longues peines de prison. Cette lutte de la profession médicale contre les guérisseuses et les femmes, même instruites, s'est poursuivie dans toute l'Europe et aux États-Unis jusqu'à l'aube du XXe siècle. Certes, ce n'était plus en finissant sur un bûcher, mais par une obstruction systématique à la formation des femmes et le dénigrement. Une femme ne pouvait avoir les capacités nécessaires pour soigner.
Je mens passionnément à mes amis, à mes parents, aux marchands, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs, elle a pas une si grosse. Enfin, j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus, les pas si beaux. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement, me disait Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein? À moi, à vous, merci. Bah moi, je m'en fiche, j'ai plus quand je me suis dit vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah il s'en remet, travail, il est grand, il était mielleux. T'es chiant à mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois, je voudrais fuir, partir de là, être seule sur une île. Je m'en mets pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi, je mens même si ça vous plaît pas bien. Vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas laissez-moi tranquille, me touchez pas. Sans mon mauvais bain sous verre, moi, mes pompes, j'ai ma mauvaise va tomber. Ah bah moi je m'en plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de faire remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement.
Et voici un dernier conte qui nous vient de l'Égypte ancienne. Ré et Isis. À l'origine du monde, il y avait le dieu Ré, le soleil, vainqueur des ténèbres qui recouvrait l'univers encore informel et noyé dans les eaux profondes du vaste océan primitif. Venu à l'existence de lui-même, Ré jaillit au jour de la première aube hors des flots originels et créa, par la force de sa parole, le ciel, la terre, l'eau, le souffle de la vie et le feu. Les divinités et les hommes, le bétail, les serpents, les oiseaux, les poissons. Il était le roi des dieux et des hommes, qui, en ces débuts de la jeunesse du monde, vivaient ensemble sur la terre, dans un univers plat et lumineux, un monde de sable et de papyrus, au centre duquel coulait le fleuve Nil. Les dieux dominaient. Ils étaient les maîtres des connaissances supérieures et possédaient la science de la magie. La vie commune avec les hommes fut longtemps harmonieuse. Un jour, poussés par quelque force maléfique, les hommes se révoltent. Mais Ré put facilement mater la rébellion, en employant pour cela tout à la fois la ruse et la clémence. Un autre incident allait se produire durant le séjour de Ré sur la Terre. Il provenait, cette fois, de l'entourage divin du dieu Soleil. Parmi les divinités, en effet, il en était une déesse, particulièrement intelligente, dont le cœur était plus habile que celui des millions d'hommes. Elle était plus judicieuse qu'un million d'esprits. Elle connaissait tout ce qui était dans le ciel et sur la terre, et possédait sur les éléments de la création une puissance certaine, car elle était une magicienne émérite. Elle s'appelait Isis. Elle était la sœur et l'épouse du dieu Osiris. Mais elle souhaitait acquérir une suprématie plus grande encore et désirait assurer sa domination sur le dieu Ré lui-même. Ré, le patriarche et le père des dieux. Pour cela, il lui fallait découvrir le nom secret de celui-ci. Chaque divinité possédait en effet un nom caché, et qui le connaissait avait pouvoir sur son possesseur. Femme envieuse et ambitieuse, Isis inventa une ruse pour obtenir ce qu'elle désirait. Elle connaissait les habitudes de Ré, qui, chaque jour, parcourait la terre d'Égypte, visitant sa création en auguste équipage. Il veillait ainsi à la protection du pays et des humains. Le dieu était maintenant très âgé. Sa bouche était devenue molle. Aussi laissait-il souvent tomber sa salive sur le sol. Isis, maîtresse des pratiques magiques, la ramassa un jour avec la terre sur laquelle elle se trouvait et pétrit le tout en ses mains. Elle lui donna la forme d'un serpent qui, tel un trait, semblait prêt à s'élancer. Tenu par Isis, il ne bougeait pas encore. Elle plaça le serpent magique à la croisée des chemins que le grand dieu avait coutume de suivre. Le moment de sa promenade quotidienne étant venu, Ré fit son apparition hors des portes de son palais, accompagné par les divinités de sa suite, et lorsqu'il arriva au carrefour des chemins, il ne vit pas le serpent, car ses yeux étaient affaiblis. Alors l'animal le mordit cruellement au pied et le poison se répandit tel un feu ardent dans les chairs divines. Puis le serpent, sa tâche magique accomplie, alla se cacher dans les roseaux au bord de la rivière. Le dieu qui ressentait une intolérable brûlure poussa un cri si fort qu'il atteignit le ciel. Effrayés, ne comprenant point ce qui arrivait, les divinités qui l'entouraient s'interrogeaient sur l'origine de ce cri douloureux. « Qu'est-ce donc ? Mais qu'est-ce donc ?» Ré ne put répondre d'abord, car ses lèvres tremblaient, ses membres étaient secoués, le poison avait pris possession de son corps. Ré, réfléchissant à ce qui venait d'advenir et affermissant son corps et son cœur, finit par appeler ses compagnons divins. « Approchez ! Vous qui êtes venu à l'existence hors de mon corps, Dieu qui êtes issu de moi, afin que je vous fasse connaître ce qui m'est arrivé. Une chose douloureuse m'a mordu. Mon cœur ne la connaît pas. Mes yeux ne l'ont pas vue. Ma main ne l'a pas faite. Je ne reconnais en elle aucun des éléments de ma création. Mais je n'ai jamais ressenti une souffrance comme celle-là, aussi pénible à supporter. Ce que je ressens, ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'eau, mais mon cœur brûle. Mon corps tremble et mes membres ont froid. Que mes enfants, les dieux, me soient amenés. Ceux qui savent les formules magiques et dont la connaissance atteint le ciel. Ils vinrent. Isis s'empressa qui possédait les incantations nécessaires pour repousser la maladie et connaissez les paroles capables de rendre la vie à une gorge qui s'étouffe. Feignant d'ignorer ce qui venait d'arriver et simulant l'innocence, elle demanda Ray s'il avait eu maille à partir avec quelqu'un de ses enfants, auquel cas, dit-elle, je le ferais tomber grâce à mon pouvoir magique parfait et je ferais qu'il soit chassé de la vue de tes rayons. Le dieu Auguste répond. En vérité, je marchais sur le chemin. Mon cœur souhaitait revoir ce que j'avais créé lorsque je fus mordu par un serpent que je n'aperçus même point. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'eau, mais je suis plus froid que l'eau et plus chaud que le feu. Tout mon corps transpire et je tremble. Mes yeux sont troubles, je ne vois plus. Isis, maligne, constatant le succès de sa mauvaise ruse, lui dit aussitôt « Dis-moi ton nom, mon divin père, car un homme revit lorsqu'il est appelé par son nom. » En réponse, Ré récite, telle une litanie, la liste de ses noms divers et connus. « Je suis celui qui a fait le ciel et la terre, qui a lié les montagnes et créé tout ce qui réside en eux. » Je suis celui qui a fait l'eau, j'ai fait le taureau pour la vache, de telle sorte que la jouissance sexuelle vint aussi à l'existence. Je suis celui qui a fait l'empyrée et créé le mystère des deux horizons. Je suis celui qui fait venir la lumière lorsqu'il ouvre les yeux et amène l'obscurité lorsqu'il les ferme. Je suis celui qui a fait venir à l'existence les heures et les jours. Je suis celui qui a établi la répartition des fêtes de l'année. Je suis celui qui a fait le feu de la vie. » Ces paroles ne soulagèrent point Ray de sa souffrance, car le nom secret qu'Isis ambitionnait de connaître ne figurait point dans cette longue énumération. Alors Isis, prenant de l'assurance et se laissant aller à un véritable chantage magique, les femmes parfois, pour assurer la satisfaction de leurs désirs, n'ont pas de pudeur. Elle dit à Ray, « Ton nom secret n'est pas parmi ce que tu m'as dit. Dis-le-moi donc, et le poison sortira de ton corps. » Le dieu hésite encore, car il savait qu'il risquait, dans l'affaire, de se livrer à la redoutable déesse magicienne. Mais la douleur devenait trop forte, insupportable. Finalement, il cède. Mais fait en sorte que seul Isis entende ce qu'il allait lui dire. Approche-toi de moi, ma fille Isis, de telle sorte que mon nom passe de mon corps dans ton corps sans que personne d'autre ne puisse l'entendre. Isis s'approche et Ré divulgue son nom caché. Aussitôt, la déesse, satisfaite, prononce ces paroles. Écoute-moi, poison. Sors de Ré, sors du Dieu, car je suis celle qui agit et celle qui chasse. Va-t'en dedans la terre, puissant poison. Vois, le grand Dieu a divulgué son nom pour moi seule. Ré vit, le poison est mort. Le père des divinités sentit alors sa souffrance ardente lentement disparaître. Ses yeux à nouveau purent voir clairement sa création. Ses membres ne tremblaient plus. Son corps avait retrouvé la paix de l'être. Désormais, Isis sera la grande magicienne, la maîtresse des dieux, qui connaît Ré par son nom. Elle avait obtenu le pouvoir qu'elle ambitionnait.
Diem, hey diem, dali mi bore maganu ma se fega murani awai. Diem, hey diem, dali mi bore maganu ma se fega murani awai. Na fe na dali kana manena wa yiganu te yamukana.
Voilà, sur ce conte et cette musique d'Afrique, se termine notre émission consacrée aux sorcières. Mais nous n'en avons pas fini avec les sorcières. La prochaine émission sera consacrée aux sorcières, mais cette fois aux sorcières d'aujourd'hui. Et oui, oui, elles existent. Avec Starhawk et son livre Révèle obscur. Tout un programme. Au cours de la présente émission, vous avez pu entendre Amparo Sanchez dans Plegaria, Anne Sylvestre dans Une sorcière comme les autres, Pauline Croze dans La chaleur des nuits de pleine lune, Carmen Maria Vega dans La menteuse, et enfin des voix de femmes d'Afrique, dont je n'ai pas retrouvé le nom, dans Tout va finir. Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 avril à 21h pour en savoir plus, un peu plus, sur les sorcières néo-païennes. Bonsoir.